Guy Eugène Demba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fin de votre mission. Dans quel état d'esprit avez-vous achevé votre mandat?
Ben écoutez, c'est avec satisfaction, hein, même si il y a beaucoup d'efforts à faire encore dans cette mission qui consiste donc à travailler pour la transparence dans la gestion des affaires de l'État et de lutter contre la corruption. Nous achevons donc ce premier mandat avec une note de satisfaction.
Vous avez dressé des rapports sur des soupçons de malversation financière, de détournement des deniers publics ou encore de pots de vin. Où en sommes-nous, par exemple, avec le rapport sur le présumé détournement des milliards de francs CFA au ministère de la Défense?
Comme tous les autres rapports que nous avons produits, justement, il y a donc des anomalies qui ont été relevées, il y a donc des propositions qui ont été faites et il y a également des plaintes qui ont été déposées. Et donc, ceci m'amène à vous dire que le travail de la HABG, selon ce qui est prévu par les textes, s'arrête à ce niveau-là, à partir du moment où le relais doit être pris par d'autres instances, et notamment le ministère de la Justice, par exemple, dans le cas des plaintes, ou alors les autres autorités, dans le cas peut-être des mesures administratives ou bien disciplinaires à prendre. C'est exactement ce qui s'est passé donc sur ce dossier-là, et qu'on peut retrouver donc concernant tous les autres dossiers d'investigation que nous avons traité.
Mais qui peut déposer la plainte? C'est vous, c'est le gouvernement ou c'est quelqu'un d'autre?
Écoutez, c'est l'institution qui dépose la plainte au nom de la société centrafricaine et maintenant à l'organe judiciaire de poursuivre normalement donc à travers toute la procédure qui est prévue à cet effet.
Est-ce que votre institution, une fois déposée plainte contre une institution, contre ce que vous avez constaté sur le terrain?
Ben oui, pour la plupart des cas, lorsqu'il y a des investigations qui ont été menées et qu'on a pu déceler donc des risques vraiment de pouvoir confirmer qu'il y a par exemple détournement d'un bien de l'État ou bien détournement par exemple des moyens financiers de l'État, nous avons toujours déposé donc des plaintes au niveau du parquet général. C'est comme je l'ai dit tantôt, il revient selon ce que les textes ont prévu puisqu'il n'appartient pas à la haute autorité de se substituer à la justice, aux organes judiciaires, de se substituer aux plus hautes autorités qui prennent des décision. En ce sens-là, la haute autorité fait de son mieux et remplit sa mission qui s'arrête à ce niveau-là.
Vous dites, monsieur, que la lutte contre la mauvaise gouvernance dans son ensemble résulte de la volonté politique ou du moins des institutions républicaines. Comment?
Ben écoutez, faudrait que on est dans une république où les institutions sont présentes, les institutions sont établies par la Constitution et notamment celle du 30 mars 2016. Et qui distribue les rôles, qui distribue les compétences à toutes ces institutions-là, respectivement. Fort de cela, la haute autorité, justement, ne peut pas empiéter sur le rôle que les autres institutions devraient jouer. C'est pour cela que j'ai dit qu'il s'agit donc d'une contribution de toutes les institutions, de tous les organes de l'État pour que les choses aboutissent.
Pourquoi vos rapports n'ont pas d'effet sur les présumés auteurs ou des criminels en col blanc?
Peut-être que la justice est en train de faire son travail, la justice à son rythme. Cette question d'impunité dont nous parlons et qui a été toujours relevée tous les niveaux, notamment le chef de l'État qui s'est prononcé clairement en faveur de la lutte contre l'impunité. J'ose croire que le moment viendra où la justice justement va briser ce silence-là et essayer de demander des comptes à ceux qui sont suspectés pour qu'ils répondent donc de leurs actes. Mais si c'est pas le cas, mais la vérité sera établie. Pour répondre à votre question purement et simplement, si ça n'a pas d'effet, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas été poursuivis effectivement encore par le fait de la justice.
Monsieur, si la haute autorité chargée de la bonne gouvernance produit des rapports alertant sur des détournements des biens publics, la malversation financière, la gabégie, la corruption, le clientélisme et le clanisme, bref, et que cela n'inquiète personne, est-ce que votre institution a encore sa raison d'être?
Bien sûr, l'institution a toujours sa raison d'être à partir du moment où tout ce qui est fait est fait. Tous ces rapports sont établis et sont présents et demeureront parce que les écrits restent. Mais il y a quand même un effet dissuasif, je peux vraiment vous rassurer, parce que de plus en plus, justement, l'institution a contribué à mettre en place une certaine culture de lutte contre ces mauvaises pratiques-là, même si ces pratiques persistent encore. C'est un grand défi, donc il y a beaucoup d'efforts à faire encore par tout le monde d'ailleurs. Déjà à ce niveau-là, la haute autorité a contribué depuis sa naissance donc à mettre un cadre dans lequel les gens peuvent s'inquiéter lorsqu'ils posent ces actes, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont suivis, ils sont observés, même si après, bon, ça tarde à venir, qu'ils puissent être poursuivis concrètement. Il y a cela, mais on peut déjà citer quelques exemples où l'institution a joué un rôle fondamental pour la société. Lorsque, par exemple, au moment des dépôts de candidatures pour les législatives ou la présidentielle en 2020, certaines candidatures, donc, de certains compatriotes avaient été évincées, parce que l'institution a veillé à cela, l'institution a travaillé sur leur cas, l'institution a produit des rapports sur leur cas, ce qui avait permis donc à la Cour constitutionnelle de trouver un motif valable pour évincer les candidats. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais sur le plan administratif, de manière générale, il y a beaucoup de situations qui ont été résolues grâce à l'intervention donc de la haute autorité concernant par exemple des situations administratives individuelles des administrés ou bien de certains agents de l'État ou bien des situations collectives posées par exemple par des groupes de revendications, par des syndicats ou bien des collectifs, etc. Et je pense que petit à petit, c'est une institution, puisqu'elle est très jeune encore, il faut du temps pour que les choses aillent plus fort, comme nous l'espérons.
La loi vous autorise seulement à produire vos rapports au président de la République, au Premier ministre, tout court, mais ne vous autorise pas à publier ni à aller au-delà de cette mission, n'est-ce pas que votre mission est limitée à ce niveau?
Mais bien sûr, c'est pas la seule limite. Il faut savoir que tout texte, il y a forcément des imperfections. C'est pour cela que on peut voir que la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de l'institution contient effectivement beaucoup d'insuffisances. C'est pour cela que nous nous sommes attelés, après avoir travaillé à l'établissement donc du document de stratégie nationale de bonne gouvernance, travailler donc à la proposition de la loi portant sur la déclaration de patrimoine en République centrafricaine, travailler également sur le projet qui est en cours aujourd'hui de la loi anticorruption en République centrafricaine. Nous sommes également sur ce chantier, et c'est presque terminé, de proposer une relecture de cette loi organique afin de donner plus de moyens, plus de possibilités que l'institution puisse pouvoir porter plus librement à la connaissance donc des Centrafricains les résultats des investigations qui sont menées. Sinon, peut-être les grandes lignes, les grandes conclusions qui sont données pour que tout le monde soit au courant. Dans ce projet de loi, nous réfléchissons aux meilleurs moyens justement de pouvoir arriver à cela.
Guy Eugène Demba, merci.
Je vous remercie également.